Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les balles de la mécanoque classique.
Bonjour. Oui, un sujet fondamental.
On va s'intéresser plus particulièrement à la relativité galilienne. L'idée, c'est de voir comment le mouvement est perçu différemment, selon d'où on garde.
C'est ça, l'importance du point de vue de l'observateur.
Exactement. Et pour ça, on a une liste de concepts clés. Le principe d'inertie, les référentiels inertiels et non inertiels.
Les trois lois de Newton, bien sûr.
Oui. Les forces aussi. Le poids, le frottement, la réaction du support. Et même ces fameuses forces apparentes.
Sans oublier les transformations de Galilée.
Et on fera un petit détour par le contexte historique, avec le Dialogo de Galilée. Bref, on essaie de clarifier tout ça.
Absolument. Et pour bien commencer, je pense qu'il faut vraiment insister sur ce qu'est un référentiel inertiel. C'est la base de tout.
D'accord. C'est quoi, alors, concrètement?
Eh bien, c'est un référentiel où le principe d'inertie est vérifié. Donc un objet sur lequel aucune force n'agit, ou des forces qui se compensent.
Il reste immobile ou bouge en ligne droite à vitesse constante, c'est ça?
Exactement. Et un bon exemple pratique, même si c'est une approximation, c'est le Système international de référence céleste. C'est un référentiel qu'on considère comme très proche d'être inertiel pour beaucoup d'expériences.
Ok, je vois. Donc référentiel inertiel, là où l'inertie fonctionne.
Voilà.
Sans ça, difficile de comprendre la suite. Notamment Galilée.
Justement, parlons-en. Le principe de relativité galiléenne, c'était assez révolutionnaire, non? Ah oui. L'idée de Galilée, c'est que les lois fondamentales de la physique, en particulier les deux premières lois de Newton...
sont les mêmes, partout.
Pas partout, dans tous les référentiels inertiels. C'est ça la clé. Que vous soyez immobile ou en mouvement rectiligne uniforme...
comme dans l'exemple du bateau qu'il donne dans le Dialogo.
Précisément. Que le bateau soit à quai ou qu'il avance tout droit à vitesse constante sur une mer calme, si on lâche un objet, il tombe pareil par rapport au bateau, verticalement.
La physique interne au bateau ne change pas, en gros.
C'est exactement ça. La vitesse constante globale n'a pas d'effet sur les lois locales.
Et on peut traduire ça mathématiquement, passer d'un observateur à un autre.
Oui, c'est là qu'interviennent les transformations de Galilée. Elles permettent de calculer ce que mesure un observateur dans un référentiel inertiel si on connaît les mesures faites dans un autre référentiel inertiel en mouvement par rapport au premier.
Pour la position, la vitesse?
Exactement. Pour la position, c'est assez simple. Et pour la vitesse, la loi est très intuitive. C'est une simple addition de vecteurs. La vitesse vue par l'un égale la vitesse vue par l'autre plus la vitesse relative entre les deux référentiels.
Et l'accélération?
Ah, point crucial. L'accélération reste la même. Elle est invariante par transformation de Galilée. C'est fondamental pour la deuxième loi de Newton.
F égale ma. Si l'accélération est la même et que la masse ne change pas, alors la force résultante doit aussi être la même vue des deux référentiels.
Tout à fait. Et pour appliquer F égale ma, il faut bien sûr identifier toutes les forces.
Alors là, on a le poids, bien sûr, l'attraction de la Terre.
Oui. Puis les forces de contact.
Le frottement, par exemple. Les sources parlent d'attrito radente dynamique.
Oui, le frottement de glissement dynamique, celui qui s'oppose au mouvement quand ça glisse déjà.
Et il y a aussi la réaction du support, la réaction Nevenkollar, qui nous empêche de passer à travers le sol.
C'est ça. Faire un diagramme de force, un petit schéma, ça aide beaucoup, surtout pour des cas comme le plan incliné.
Et ne pas oublier la troisième loi de Newton, action-réaction. Chaque force vient en paire.
Toujours. Égal et opposé, entre deux objets qui interagissent.
D'accord. Donc ça, c'est pour les référentiels inertiels. Mais que se passe-t-il si on est dans un référentiel qui accélère? Une voiture qui démarre, un manège?
Ah, là, ça se complique. Ce ne sont plus des référentiels inertiels. Et les lois de Newton, telles quelles, ne s'appliquent plus directement.
On ressent des choses, pourtant. On est poussé vers l'arrière ou vers l'extérieur.
Exactement. Ce sont les forces apparentes, ou forces d'inertie. Elle n'existe pas à cause d'une interaction physique directe avec un autre objet.
Mais à cause de l'accélération du référentiel lui-même.
Précisément. C'est le cas du poids apparent dans un ascenseur qui accélère vers le haut ou vers le bas. Notre poids ressenti change.
Ou même la scène s'adipèse, l'apesanteur en chute libre.
Tout à fait. C'est une situation où la force apparente compense exactement le poids réel. Ces forces sont une sorte d'artefact lié au choix d'un référentiel non inertiel.
Donc, pour résumer un peu, Galilée a posé les bases dans les bons référentiels, les inertiels. Les lois de la physique sont les mêmes. C'est son principe de relativité.
C'est ça.
Et les transformations de Galilée, c'est l'outil pour passer d'un référentiel inertiel à un autre mathématiquement.
Exactement. La logique est là. On définit d'abord le cadre idéal, le référentiel inertiel, grâce au principe d'inertie. Dans ce cadre, la relativité galilienne s'applique via les transformations de Galilée.
Et si on sort de ce cadre ?
Alors, on entre dans le monde des référentiels non inertiels. Et là, pour que ça fonctionne encore, il faut introduire ces fameuses forces apparentes.
D'accord, c'est plus clair.
Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion.
Oui.
Ces transformations de Galilée, elles fonctionnent parfaitement bien à nos échelles, pour nos vitesses quotidiennes. Mais imaginons des vitesses relatives énormes, vraiment très grandes, peut-être proches d'une vitesse limite, une vitesse inenfranchissable dans l'univers.
Si une telle vitesse existait.
Est-ce que ces transformations simples, cette addition des vitesses, seraient toujours valables?
Ou faudrait-il repenser complètement notre description du mouvement et de l'espace-temps?